Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Qui n'était pas là vendredi soir? Levez la main s'il vous plaît. Je vous pardonne. Alors, vendredi soir, on a vu un message qui est réellement capital et qui, en priant, le Seigneur ne m'a pas permis de partager un autre thème, mais de bien poursuivre le thème qu'on a vu vendredi soir, ce matin, parce que c'est un thème réellement crucial et qui pose les fondements de notre foi, très 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 important. Et Dieu a agi avec puissance vendredi soir et je crois qu'il va le faire encore ce matin. Mais nous devons pour cela, plus que jamais, savoir qui nous sommes dans le Seigneur. Et le thème qu'on a commencé à voir vendredi soir s'intitule « Qui es-tu en Christ ?» Regarde ton voisin, pose-lui cette question. Dis-lui « Qui es-tu en Christ ?» Et donc ce matin, nous allons voir la deuxième partie de ce thème. Et le sous-titre, je dirais, de ce message « Qui es-tu en Christ ?» s'intitule « As-tu l'assurance de ton identité en Christ en tant que nouvelle créature ?» As-tu l'assurance de ton identité en Christ en tant que nouvelle créature ? Et pour répondre à cette question « Qui es-tu en Christ ?» et avoir cette assurance dans cette nouvelle identité en lui, il est important pour nous d'abord de savoir qui Jésus est. Pour savoir qui nous sommes, il faut d'abord connaître qui il est. Et donc je vais ce matin commencer par un long rappel. Nous allons aborder le mystère de la résurrection, le mystère de Christ, comme on a commencé vendredi, et on va poursuivre dans cette partie ce matin. Mais il est important pour nous de réaliser que si nous ne connaissons pas qui est Jésus, nous allons du mal à avoir l'assurance de qui nous sommes en lui. Donc il faut d'abord le connaître lui. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, la Bible dit ceci: « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous sommes, n'est pas encore manifesté. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais ça se manifestera. 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image. Il faut avoir la bonne image de Jésus-Christ. La gloire de Christ nous transforme. Parce que la Bible dit que dans le miroir, on doit avoir la gloire. Parce que nous sommes transformés en la même image. Quelle image ? De gloire en gloire. Et c'est important donc de voir dans cette image du miroir, que la parole de Dieu du miroir, que Christ lui-même, Dieu lui-même, la gloire de Jésus-Christ, pour être transformé en la même image, de gloire en gloire. La transformation, c'est de gloire en gloire. Pas de « je fais pitié » à un stade de gloire, puis « je fais pitié » à un stade de gloire. Mais de gloire en gloire. Donc il est important pour nous de comprendre la gloire de Christ et de connaître mieux Jésus. Et on a vu que oui, Jésus est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, le sauveur, le libérateur. Mais je disais vendredi, et je le redis ce matin, peut-être que tu le connais en tant que le libérateur, mais est-il réellement ton libérateur? Il y a une différence. Peut-être que tu connais Dieu comme étant celui qui pourvoit, mais est-il celui qui pourvoit pour toi, personnellement? Peut-être que tu dis oui, le Seigneur est le Dieu de justice, mais si tu es dans une situation qui galère, l'as-tu expérimenté comme l'Éternel est ma justice? Donc c'est bien de dire ce qu'il est, mais quand il devient ce qu'il est personnellement par une propre expérience de la foi, de notre propre vie, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est comme il est celui qui guérit, amen. Mais que tu expérimentes la puissance de la guérison, ou que Dieu te guérit lui-même, ça prend une autre dimension. Amen. Et ce matin, nous allons continuer ce thème important sur qui est Jésus-Christ. Et on va lire un verset dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, dont tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, et tout le monde lit ce verset avec moi, s'il vous plaît, à voix haute, que tout le monde dise, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Waouh ! Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il y a une nouvelle manière pour connaître Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a pas connu Jésus pendant les 3 ans et demi de ministère sur terre. Et ici, il exhorte le peuple de Dieu et il leur dit, si nous avons connu Jésus selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il y a une autre manière, la manière de l'esprit pour connaître Jésus-Christ. Le verset 17 continue en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces 3 versets-là sont des versets hyper puissants. D'abord, il dit, s'il est mort pour nous, cela signifie que tous doivent avoir la révélation, que celui qui est mort pour tous, alors tous doivent mourir et vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et on a vu ensemble que là, c'est très 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 important. Jésus est mort pour toi et pour moi, et Jésus est ressuscité pour toi et pour moi. Quand la Bible dit « pour toi », ça signifie qu'il y a des bénéfices pour toi. Connais-tu les bénéfices de sa mort ? Connais-tu les bénéfices de sa résurrection ? Et vendredi, on a vu beaucoup de bénéfices de la mort de Jésus-Christ. On a vu que par sa mort, il nous a, oui, rachetés. On a vu que par sa mort, il a dépouillé les autorités. Par sa mort, il a pris les malédictions pour qu'on devienne bénédiction. Par sa mort, il a pris sur lui la pauvreté pour nous enrichir. Par sa mort, il crucifie la chair pour qu'on puisse vivre dans l'esprit. Par sa mort, il rend sans effet l'influence du monde pour qu'on triomphe du monde. Il y a extrêmement des bénéfices pour nous. Mais la mort, c'est pas uniquement pour nous. La mort de Christ doit agir aussi au travers de nous. Les bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Mais ça, on a vu vendredi. Et je ne pourrais pas revenir là-dessus. En plus, on a vu vendredi rapidement. Je vais insister ce matin, comme vendredi je l'ai fait, sur les bénéfices de la résurrection. Il est ressuscité pour nous. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le Christ ressuscité est différent du Christ qui a marché 3 ans et demi sur terre. Oui, on peut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est vrai. Mais le Christ ressuscité marche dans toute la plénitude de Fils de Dieu qu'il est. Alors que le Fils qui était là pendant 3 ans et demi était limité. Et la Bible dit, mais maintenant, nous ne le connaissons plus selon la chair. Ce n'est plus de cette manière que nous le connaissons. Et c'est très important. Et il faut connaître Christ d'une autre manière. Et on a vu donc les bénéfices de la mort. On a vu que à Gethsémané, comment le combat était intense. Quels sont les bénéfices de Gethsémané? On a vu quels sont les bénéfices de ses meurtrissures. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On a vu les bénéfices de son sang. On a vu les bénéfices de la croix. Et à partir de là, on a commencé à transitionner vers la résurrection, vers le tombeau, la résurrection. Et à la croix, je reprendrai à partir de là. À la croix, lorsque le centurion a percé le côté de Jésus-Christ, la Bible dit dans Jean, chapitre 19, verset 34, que lorsque son côté était percé par une lance, aussitôt il en sortit de l'eau et du sang. Et on a vu ensemble que ici c'est une image, une symbolique très puissante, très forte. Très, très, très forte. Quand Dieu avait créé Adam, il a formé Ève de sa côte. Et ici, sur la croix, le centurion perce le côté de Jésus. Et il en sort de l'eau et du sang. Et on a vu ensemble que cela parle d'une naissance, la naissance de quelque chose. Quand une femme donne naissance, elle perd les os, pas les os. Elle perd les os et ensuite elle perd le sang. Et ici à la croix, Jésus donne naissance à quelque chose. Et ensuite, il est mis au tombeau. Mais on a vu que quand il est mis au tombeau, il a dit avant, tout est accompli. Ça signifie qu'il avait à ce moment-là, avant le tombeau, payé toute la dette du premier Adam. Il avait déjà payé toute la dette. Mais au tombeau, quelque chose d'autre se produit. Il y a notre mystère que Jésus réalise, que nous devons comprendre. Et pour rester totalement biblique, on va juste voir quelques versets. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant ces 3 jours où il est parti au tombeau? On voit un verset dans 1 Pierre 3, 18, où la Bible dit qu'il est parti prêcher aux esprits du temps de Noé. Mais il y a un autre endroit dans les évangiles où Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et la Bible dit qu'il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire que Jésus était en train de dire, je vais me reconstruire un corps en 3 jours. Pendant ces 3 jours, il était en train de donner naissance à quelque chose de nouveau, à un corps nouveau. Et un verset encore plus clair, c'est dans Jean 16, verset 19, où Jésus dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Et encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et là, il donne une explication très intéressante. Il parle ici dans le contexte du tombeau. Des 3 jours, il va être absent. Et il dit ceci, la femme, au verset suivant, 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'elle a mis, de ce qu'un homme est né dans le monde. Jésus est en train de dire, je vais enfanter quelque chose de nouveau. Je vais créer quelque chose de nouveau. Au tombeau, pendant ces 3 jours, je vais faire une chose différente. Et c'est ce que nous avons vu vendredi. Et c'est les bénéfices de la résurrection. Et ça doit être la base de notre foi. Je me suis rendu compte que l'Église, peut-être, ne prêche pas assez souvent ça. Ou oublie, ou pense connaître. Le Seigneur me conduisait à clarifier et à enraciner la base de notre foi, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ici, au tombeau, il est en train de donner naissance à un corps, son corps nouveau. Il a dit qu'il rebâtira lui-même en 3 jours. Et ça, là, on parle du mystère de Christ, du mystère de la résurrection. Et on parle du Christ qui n'est plus selon la chair. On parle ici pas du Christ qui a marché 3 ans et demi sur terre. Et gloire à Dieu, c'est par les évangiles qu'on peut le connaître. Il est le chemin, la vérité, la vie. Mais ici, on parle du Christ dans sa nouvelle dimension. Le mystère de Dieu, c'est Christ qui était caché avant tous les temps. Et il est pleinement révélé après la résurrection. Et c'est de ce mystère-là que l'Église base sa foi. Très, très important. Et donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 1 Corinthiens 15 est le chapitre où l'apôtre Paul décrit un peu ce qu'est la résurrection. Il explique que si nous n'avons pas notre foi en la résurrection, alors notre foi est vaine. Cela signifie que si on ne croit pas en la résurrection, notre foi est vraiment fragile et vaine. Ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15, verset 12, on va lire rapidement. Il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, Comment quelqu'un parmi vous dise qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Au verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est dans cette vie seule que nous espérons en Christ. Si c'est dans cette vie seule que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et là, l'apôtre Paul insiste qu'on ne doit pas espérer uniquement en Christ que dans cette vie seule. Il y a une plus grande chose, une plus grande image. Et au verset 20, ce même chapitre, il est écrit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Que tous disent les prémices. Très important. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, aussi par un homme est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Là, on parle du mystère de Jésus-Christ. Vous allez mieux me comprendre dans un instant. Ce qui était là vendredi, ça va vraiment enraciner ça en vous. Et il dit, si tous meurent en Adam, alors tous ressusciteront en Christ. Chacun en son rang, Christ comme prémiste et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Puis après, au verset 35, pour aller rapidement, il explique que la résurrection, c'est comme une graine. Quand tu prends une semence de blé ou un grain d'haricot et que tu le mets en terre, il faut que le grain d'haricot meure et il y a un nouveau corps différent de l'haricot qui pousse. Si tu fais des grains, des haricots rouges, tu fais un des grains avec les grains, pas avec la tige. Parce que la tige est différente du grain. Pourtant, la tige provient de la graine. Mais la tige a un corps différent de la graine, oui ou non? L'apôtre Paul dit, il en est de même de la résurrection des morts. Il part de notre corps comme une graine. Le corps est semé en terre comme une graine, mais il ressuscite avec un corps différent. Et c'est ce qu'il parle dans 1 Corinthiens 15. Et au verset 42, il continue en disant, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, et il ressuscite corps spirituel. Il est semé corps animal, et il ressuscite corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas ce qui vient en premier. C'est ce qui est naturel qui vient en premier. Le spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Yes. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est que la parole de Dieu dit que le premier Adam est devenu un être vivant et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant en parlant de Jésus-Christ. Et ensuite, au verset 47, il y a un verset clé ici. Il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Ce que j'aimerais vous dire, c'est le Christ qui est ressuscité lorsqu'il est sorti du tombeau, n'est plus le dernier Adam, c'est le second homme. Car si tous meurent en Adam, tous ressuscitent en Christ. Il est parti se préparer un nouveau corps dans le tombeau. Il est parti donner naissance à une nouvelle humanité. Une nouvelle créature qui est au top, au sommet de toute sa création. Et ça, c'est la résurrection, le mystère de Christ. Un autre passage en Luc 19 nous dit, dans une parabole, Jésus explique qu'un homme de haute naissance est parti recevoir l'autorité royale dans un pays lointain. Il parlait de lui. Il est parti recevoir une autorité dans les cieux qu'Adam n'avait pas. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Christ est le Fils de Dieu. Il vient à un moment donné sur terre, il existe depuis l'éternité. À un moment donné, il se fait un corps en Jésus et sur terre, il devient Jésus-Christ. Mais lorsqu'il passe par la croix et la résurrection, il remonte sur le trône de Dieu, non plus en tant que Christ, fils de Dieu uniquement, mais en tant que Christ, Jésus, fils de Dieu. Il y a Jésus qui est assis maintenant sur le trône dans un corps nouveau, en tant que second homme, sur le trône de Dieu. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Sur terre, pendant 3 ans et demi, Jésus est le dernier Adam. Et il bouge dans toute la puissance et l'autorité du premier Adam. Il manifeste le règne de Dieu, il a l'onction, il a l'autorité. Mais, vous allez voir, il ne bouge pas dans la pleine autorité qu'il a après sa résurrection. Et la parole de Dieu est claire à ce sujet. Très très claire. Comprenons bien ceci. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit que cela est bon, très bon, mais pas parfait. Adam a échoué au test de l'obéissance. Dieu avait mis une multitude d'arbres dans le jardin et il pouvait manger d'un paquet de bons fruits, mais un seul arbre, Dieu lui dit « mange pas » et il n'écoute pas, c'est celui-là qui mange. Et il a échoué au test de l'obéissance. La Bible dit pour Jésus qu'il a appris l'obéissance. Je vous signale que souvent on dit que la désobéissance, c'est péché. Oui ou non? Jésus, il est sans péché. Oui ou non? Comment a-t-il appris l'obéissance? C'est parce qu'il a grandi dans l'obéissance. D'une obéissance, d'un niveau d'obéissance, un plus grand niveau d'obéissance. Adam a échoué au test de l'arbre. Christ a appris l'obéissance par tous ceux qu'il a souffert. C'est par la souffrance qu'il a appris l'obéissance. Et Christ Jésus est monté dans les cieux avec le trophée de l'obéissance qu'Adam n'a jamais eu en tant qu'homme. Et quand il monte auprès de Dieu, il monte avec ce trophée. Alors qu'est-ce qui se passe? Philippiens 2 nous éclaire. Ayant paru comme un simple homme au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. Alors qu'Adam a échoué pour l'obéissance de ne pas manger un fruit, Jésus, lui, obéit même jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, pas uniquement au nom de Christ, parce que Christ est le Fils de Dieu, mais Christ, Dieu était en Christ et Christ était en Jésus. Mais Jésus, dans son humanité, a triomphé par la foi. Là où Adam a échoué, il était le dernier Adam. Et le dernier Adam a remporté la victoire que le premier Adam n'avait pas réussi. Mais il a fait bien plus que ça. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh! Je vous signale que le premier Adam n'avait pas l'autorité dans le ciel. Que le premier Adam n'avait pas l'autorité sous la terre. Le premier Adam n'avait que l'autorité dans le monde. Dans Genèse 1, au verset 26, il est écrit « Dieu dit qu'il domine. » Et il donna l'autorité sur les animaux qui se meut, sur les oiseaux, sur les poissons. Bref, il donne l'autorité sur la terre. Le premier Adam n'avait pas l'autorité dans le ciel. Quand Christ ressuscite, il n'est plus le dernier Adam. Il a produit un nouveau corps. Il avait donné un aperçu sur le mont des Oliviers à ses disciples. De manière prophétique, lorsque son corps a été glorifié. Quand il ressuscite, il est le second homme, la nouvelle humanité, les prémices d'une nouvelle créature. C'est pour ça qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Ce n'est plus ainsi, de cette manière que nous le connaissons. Parce que le Christ qui est ressuscité a amené une dimension de l'homme comme jamais le premier Adam n'a pu faire. Le nouveau Christ a beaucoup plus d'autorité. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Ça, Adam n'avait pas. Sur la terre et sous la terre. Parce que quand Jésus est mort, au tombeau, on a vu. Il est parti prêcher aux esprits. Mais la Bible dit aussi qu'il a récupéré les clés du séjour des morts. Il a mis une correction à l'ennemi. Il a dépouillé les autorités célestes, nous dit la parole de Dieu. Et du coup, il a aussi l'autorité sous la terre, afin qu'il remplisse tout en tous, afin que tout soit réuni en lui, sur la terre et dans les cieux. Car en lui est réunie toute la plénitude de Dieu. Christ est le plan parfait de Dieu, le mystère de Dieu. C'était Christ le mystère de Dieu, pas Adam. Le premier Adam, dans sa maturité, devait devenir Christ, si vous préférez. Pas exactement ça, d'accord ? Mais c'est pour donner une idée. Christ, le dernier Adam, est le plan de Dieu. À un tel point que la première chose, une des premières choses qu'il dit à ses disciples dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi : tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, Adam n'avait pas. Ça, Adam n'avait pas. Dans l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean a la révélation de Jésus-Christ, lui, le disciple que Jésus aimait, écoutez quand il voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit au verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » L'apôtre Jean lui-même, le disciple de Jésus, a gagné ses cissements. Parce que le Jésus qui est ressuscité marche dans la pleine puissance du mystère de Dieu. Et ce Jésus-là, on doit le chercher et apprendre à le découvrir par le Saint-Esprit. Parce qu'il a l'autorité dans les cieux et sur la terre. C'est très important. En plus, Jésus a dû payer la dette qu'Adam a causée. Adam n'avait pas de dette à payer, lui, le premier Adam. Mais le dernier Adam lui avait une dette à payer, la dette du premier Adam. Il l'a payée au prix de sa vie. Et à la résurrection, Jésus est le second homme. Pendant ces 3 jours de mystère, il y a un travail créatif. Il y a un travail d'enfantement, comme il dit lui-même dans Jean 16. Et il produit une nouvelle humanité. Éphésiens 2,15 nous dit ceci. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. D'autres versions disent une nouvelle humanité. Ici, il parle du peuple juif et du peuple païen. Christ s'est créé un corps. Quand le côté a été percé, les douleurs de l'enfantement ont commencé. Il s'est poursuivi dans le tombeau. Il s'est créé un nouveau corps, qu'est l'Église, d'où il est la tête. Mais aussi un nouveau corps pour chaque humain qui croit en lui. C'est pour ça que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est la base. Même si je vois certains me regarder comme ventre Dieu en disant, mais là, on ne comprend pas tout. Il ne faut pas comprendre. La résurrection est un mystère qui ne se comprend pas, mais qui se croit. La crucifixion n'est pas faite pour avoir flatté la raison. Elle est une folie. Mais la sagesse de Dieu pour quiconque croit, du juif premièrement et du grec ensuite, et la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et ici, on parle du mystère de la résurrection. Des deux, il n'a fait qu'un seul, un seul homme, une nouvelle humanité, un homme nouveau. Il a enfanté, il a séparé. C'est pour ça qu'il est écrit, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni barbare, ni scythe, mais tous et un en Christ. Ailleurs, il est écrit, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, plus de gendre. Ni circoncis, ni incirconcis. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça, ce que dit la parole de Dieu qui compte. Qui es-tu en Christ? As-tu l'assurance de ton identité en tant que nouvelle créature? Sais-tu ce que c'est? Où on récite ce verset? Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il n'y a rien de nouveau. Parce que tu n'as pas la foi en ce qu'il a accompli, ou que tu ne connais pas. Et ce qu'il a accompli, donc, ne peut pas œuvrer en toi, parce qu'il est mort pour nous, et il est ressuscité pour nous. Ça signifie qu'il y a des bénéfices pour nous. Pas uniquement pour nous, mais aussi des bénéfices qu'il veut utiliser, œuvrer au travers de nous. En nous. Le second homme n'est jamais né d'une femme. Le second homme, c'est Christ qui l'a créé, pas Marie. Le second homme qui sort du tombeau, il est mature. Il est déjà adulte. Il est glorieux. C'est Christ qui l'a enfanté. C'est le mystère de la résurrection. C'est le plan de Dieu caché avant tous les temps. Celui-là, il est sans généalogie, sans père ni mère. Mais il est selon Melchizedek. Nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 7, verset 3. C'est ce Jésus-là, pas selon la chair. Quand il sort du tombeau, c'est plus le même. C'est pour ça qu'il a essayé de feinter, de poser un piège aux pharisiens. Il dit, si le Christ est le fils de David, comment se fait-il que David l'appelle mon Seigneur? Il voulait faire partir en toupie leur raison, leur dire que Christ n'a pas de généalogie. Gloire à Dieu pour Marie, on l'aime. Gloire à Dieu, Jésus est venu nous montrer le chemin, comment vivre sur terre. Mais il y a plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature qui sort du tombeau par la puissance de la résurrection est un homme nouveau que Jésus lui-même a créé. Et ça, c'est bon. C'est le mystère de Dieu. Et Satan n'a aucune puissance sur cet homme-là. Satan n'a aucune puissance sur cette nouvelle créature-là. C'est pour ça que parfois je dis à l'ennemi, quand je fais une faute ou j'échoue, il me rappelle mes fautes. Dis-toi, tu as fait ci ou tu as fait ça. Je dis, de qui tu parles? Ce slave-là, il est mort. De qui tu parles? Ne prends pas la tête. Ce Steve-là, il est mort. Tu n'as pas compris qu'en Christ, je suis une nouvelle créature? Un homme nouveau? Colossiens 1, 25. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le mystère de Christ. Et Colossiens 2, 2 dit ceci. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère, le mot mystère, c'est-à-dire le secret de Dieu, caché avant tous les temps. Et ce secret, c'est Christ. Qui est Christ? Le second homme. La nouvelle humanité. En qui Dieu allait tout créer. Par qui Dieu allait tout réunir dans les cieux et sur la terre. En lui, par lui, avec lui et pour lui. Il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. C'était ce mystère. Dieu a tout créé pour ce mystère. Quel mystère ! Une nouvelle création. Pourquoi une nouvelle création ? Car il est les prémices. Sa propre résurrection est le premier fruit de toute une lignée de nouvelles créatures dont toi et moi on fait partie. Et reçois-le avec foi, même si tu ne comprends pas tout. Reçois-le avec foi. C'est pour ça que toutes choses anciennes sont passées. Et que je suis capable de dire, attends, à qui tu parles là? Soulève-la et les membres, ne prends pas la tête. En Christ, je suis une nouvelle créature. Les prémices, Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est le cœur de Dieu que toi et moi, nous puissions porter la gloire de la nouvelle nature, de la nouvelle créature. C'est son cœur. Il est les prémices. Colossiens 3, 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. C'est l'homme nouveau. Et il faut se revêtir de l'homme nouveau, dit la parole de Dieu. C'est pour ça que je te dis la foi. C'est ce que Christ a accompli, le travail depuis le Gethsémané jusqu'à la passion, la mort, le tombeau et la résurrection a produit des bénéfices aussi pour nous, mais aussi en nous, parce que Dieu est avec nous et il veut voir ces bénéfices-là se manifester. C'est pour ça que Christ est le mystère de Dieu. Christ est cette nouvelle créature et Christ est en nous. Le mystère de Dieu, Christ est en nous, la nouvelle créature est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais je vous ai dit, il nous a appelés pour nous justifier, pour nous glorifier. Ce qu'il a appelé veut glorifier. La gloire de Christ en nous ne doit pas rester cachée. Elle doit se manifester parce que Christ a mis la gloire de Christ en nous pour que la gloire qu'il a mis en nous, Christ, se manifeste au travers de nous afin que ceux qui ne connaissent pas Christ reçoivent la gloire de Christ aussi en eux. C'est l'évangile. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as une identité glorieuse. Et j'aimerais terminer là-dessus. Parce que depuis vendredi, je suis sur le mystère de Christ. Et maintenant, j'aimerais terminer sur ce mystère-là, il est en nous, d'accord, on le porte. Et ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. On a lu ça pour commencer. Mais quand il sera manifesté, alors nous le verrons. Nous le serons aussi parce que nous verrons tel qu'il est. Mais plus tu vois Christ tel qu'il est, alors plus tu es transformé de gloire en gloire. Des gens regardent la croix et voient un homme faible. Ils ne voient aucune gloire dans la croix. Mais le peuple de Dieu, lorsqu'il regarde la croix, Gethsémané, le tombeau, la résurrection, il doit voir la gloire de Dieu, le mystère qu'il a caché, le plan de Dieu. Et quand il regarde cette gloire, il est transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Tu as une identité glorieuse. Vous savez, dans le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 3, quand Jésus est ressuscité, voici ce que dit la parole de Dieu. Après qu'il eut souffert, il apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Je vous rappelle une chose. Ici, il est dit, quand Jésus est ressuscité, il se révéla à eux. Eux, c'est ses disciples. Ce qui signifie que Jésus ne s'est plus jamais montré en public comme il prêchait. C'est pour ça que le grand public connaît Jésus souvent selon la chair. mais que les disciples connaissent Jésus selon l'Esprit. Il s'est révélé à eux. Et il faut comprendre une chose. Le Jésus ressuscité n'a pas démontré sa puissance. Le Jésus ressuscité n'a pas démontré sa puissance comme avant la croix. Et dans ce contexte de Acte 1, le disciple le questionne. Et la Bible dit dans ce verset qu'il est venu leur montrer des preuves comme quoi qu'il était vraiment ressuscité, afin que Thomas arrête un coup de douter. Parce qu'il avait une grande mission pour eux. Et il leur dit, les disciples le questionnent. Et ils sont tout contents. Ils disent, on sert Dieu, les gars. Franchement, t'es servi à Dieu. Là, tu te rends compte que c'est Dieu. Tu te causes avec toi. Il est ressuscité, a triomphé de la mort. T'es, mais c'est dangereux. Et ils se disent, bon, c'est bon, on va mettre une raclée aux Romains. Les Romains vont goûter. Et il dit, Seigneur, mais quand est-ce que tu vas établir le royaume d'Israël? Et ils voyaient encore trop petit. Ils voyaient encore un Jésus selon la chair. C'est Paul qui amène le mystère de Christ dans une autre dimension pour toutes les nations, pour les païens. Pourtant, Jésus leur avait dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et eux disaient, non, 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 Seigneur, Israël d'abord, Israël. Gloire à Dieu pour Israël. Il faut les bénir et prier pour eux. Mais ce n'est pas tout. Jésus avait autre chose dans le cœur. Et il leur a parlé dans ce contexte-là pendant 40 jours de la passion de son cœur, du royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Quand vous priez, dites, notre Père qui est je suis, on l'a chanté tout à l'heure. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'était le cœur, la préoccupation de Jésus. Et eux, ils pensaient le royaume pour Israël. Et Dieu, à ce moment-là, Christ Jésus, n'a pas manifesté sa puissance en tant que Christ ressuscité. Mais il leur dit, vous, à ses disciples, vous, vous recevez une puissance. Dans Acte 8, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh ! Jésus est en train de dire, écoutez, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je vais sur mon trône. Mais vous, je vous donne l'autorité. Si vous comprenez qui je suis, vous allez comprendre qui vous êtes. Si vous comprenez qui je suis selon l'esprit, vous n'allez plus connaître personne selon la chair. Même pas vous. Vous n'allez même pas vous connaître selon la chair. Vous allez vous connaître selon l'esprit. Vous n'allez plus connaître vos frères et vos sœurs selon la chair. Vous allez les connaître selon l'esprit. Parce que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est ce que Dieu dit ici. Vous recevez une puissance. Que vous allez connaître qui vous êtes. Vous allez être des petits Christ, des chrétiens. C'est ce que ça signifie. Et vous allez continuer la mission sur terre. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 14, 12 ? En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est dangereux. C'est dangereux. La nouvelle créature en Christ est capable de faire de plus grandes choses que Jésus-Christ quand il a marché 3 ans et demi sur terre. Ça paraît fou, hein? Difficile à croire, hein? Mais il faut croire. Parce que Christ est en train de laver des gens en tête, il savait ce qu'il devait faire. Il est le plan de Dieu. Il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. L'agneau n'a pas été immolé il y a 2000 ans. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc Christ savait. Le second homme devait prendre place. La nouvelle création devait prendre place. La nouvelle humanité devait prendre place. C'est ça le mystère de Dieu. Et tous les anges ont resté bêtes. Ils se sont dit, waouh, c'était ça, mais on n'avait pas connu que c'était ça. L'homme est fait pendant peu de temps inférieur aux anges. Peu de temps. Et pourtant les anges nous serrent. Et on est frêles. Mais le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite glorieux. C'est la résurrection. La résurrection pour toi. la résurrection pour moi. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Amen. Je ne sais pas vous, mais on l'a réincarnation et la résurrection. Devinez lequel est mieux. Jésus dans Jean 17 dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Jésus nous a donné sa gloire. Il veut nous donner sa gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais il veut que cette gloire soit manifeste. Parce qu'une lumière n'est pas faite pour être cachée. Bien sûr, il nous faut comprendre ceci. De Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais cette puissance est quand même en nous. Et ça, c'est bon. Qui es-tu en Christ? As-tu l'assurance de ta nouvelle identité en Jésus-Christ? Croyez-moi, celui et celle qui a la révélation de Christ selon l'esprit, non plus selon la chair, va être transformé de gloire en gloire. Il ne va pas faire pitié face à l'ennemi. Parce que les légères afflictions du moment, temps, court, c'est fini, il y a une fin, ça va s'arrêter, produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux choses invisibles, celles qui ne se voient pas. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Jésus a fait tout ça pour qu'on porte sa gloire. Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Pas pour qu'on fait pitié. Mais porte ma croix, mon enfant, les dieux à la vie, tout le temps, mais gagne le coup. Il n'est pas mort et ressuscité pour que tu gagnes le coup tout le temps. Il est mort et ressuscité pour que tu donnes le coup à l'ennemi. C'est pour ça qu'il est mort et ressuscité. Il a fait de grandes choses pour nous. Et il veut qu'on porte la gloire de son Père. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Fais une affaire. En français, fais quelque chose avec ça, s'il te plaît. Frères et sœurs, quel papa ici dans ce lieu est content quand il a un fils qui est nul, qui vraiment est fait pitié et se sent tellement pas bien à l'ouest, mal aimé, il souffre, il est dur. Quel papa est content? Tu es triste, tu as envie de l'encourager, tu as envie de dire écoute, ben, tu es quelqu'un. Parce que quand un fils manifeste la gloire dans sa vie, c'est le papa qui reçoit la gloire en premier. C'est pour ça que Dieu le Père, que Dieu notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que tu vois la réputation de ton nom là, que la réputation de ton nom soit à part. Mais pour ça, il compte sur nous. Mais si l'Église est tout le temps en train de dire, les dieux bobos, le diable, on n'arrête pas. Mais maintenant, lui, il y a une correction. Quand David, le roi David, abat Goliath, une des premières questions du roi Saül, c'est de qui est le père de ce fils? Qui est le père de ce jeune homme? Une des premières questions du roi Saül, quand David abat Goliath, c'est qui est le père de ce jeune homme? Pour ce gars-là comme ça, que son papa l'a fait avec lui. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que ce trésor, nous le portons dans des vases de terre. Afin que la grande puissance qu'il nous donne soit attribuée à lui. Mais il faut lui donner quelque chose. Les 24 vieillards devant le trône lui jettent leur couronne. La couronne représente la gloire. Il faut avoir une gloire pour lui donner. De la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Dors pas dessus. Arrête, fais pitié. Qui tu es en Jésus-Christ? As-tu l'assurance de ta nouvelle identité en Christ? la puissance de la résurrection. C'est dangereux. C'est glorieux. Nicodème, le religieux, vient voir Jésus. Et dit, oh maître, je sais que personne ne pourrait faire ça si tu viens pas de Dieu. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème dit, oh, comment faire pour moi qui est âgé pour rentrer dans le sein de ma mère? Et Jésus dit, non, tu n'as pas compris. Jésus parlait déjà de la nouvelle naissance. On parle souvent de nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, elle donne naissance à quoi? À la nouvelle humanité. Au second homme que Christ a créé, pas Marie. Et qu'en croyant lui à la croix, le dernier Adam qui était sans péché, parce que lui il a obéi, il n'a pas péché, paye la dette du premier Adam, triomphe de l'ennemi, va en enfer. La Bible dit que l'aiguillon de la mort, l'aiguillon du péché, c'est la mort. La puissance de Satan, c'était la séparation avec Dieu. Mais Jésus a triomphé de ça. Il a pris les clés du séjour de mort. Il a dépouillé les autorités. Satan n'a plus de puissance. Jésus l'a dépouillé. Satan n'a plus de puissance. Jésus l'a dépouillé. Et il dit, je te dépouille et je vais donner mon autorité à mon peuple. Et mais tu vas rester quand même là parmi eux parce que c'est eux qui vont te corriger. Tu as toujours voulu être Dieu et c'est comme ça que tu es devenu orgueilleux. Je t'ai jeté sur terre et j'ai créé une nouvelle créature. Et le processus s'est suivi jusqu'à mon plan parfait Christ, afin qu'ils aient autorité dans le ciel et sur la terre, pour que eux, dans le nom de Jésus-Christ, qui sont faits à mon image, ce que tu as voulu, tu vois toujours moi, ce que tu as voulu, le voler, tu vas voir en eux, et c'est eux que tu crois faibles, qui vont te corriger. Avant le lac de feu. On dit oui, mais comment se fait-il que l'ennemi a encore détruit alors? Par le mensonge, par la tromperie, par la ruse. Quand on croit au mensonge de l'ennemi, on lui donne de la puissance. Ça n'a pas changé. Il twiste la vérité et il dit à Ève, a-t-il réellement dit? Crois-tu vraiment que tu es une nouvelle créature? Non, regarde ta vie. Tu es un sirop. Regarde ce que tu fais tout le temps. Oh, tout le temps, tu mets une mauvaise colère. Regarde l'attitude. Tu pêches. Et à l'église, tu es là. Alléluia, alléluia. Et chez toi, regarde comment tu es. Tu es mauvais. Et là, on croit. C'est vrai. Pardon, Seigneur. Et comment tu veux manifester l'autorité et l'assurance à ce moment-là? Tu te connais selon la chair. Et l'ennemi t'accuse. Et tu n'arrives pas à dire stop, j'ai demandé pardon. Le sang de l'agneau, parce que tu récupères les bénéfices de la croix. Tu récupères les bénéfices du tombeau par la foi. Tu récupères les bénéfices de la résurrection. Et tu dis, ferme ta bouche un peu. Parce que frères et sœurs, croire aux mensonges de l'ennemi lui redonne une puissance qu'il n'a pas. Si toi et moi on croit un mensonge, on lui redonne une puissance qu'il n'a pas. C'est comme ça qu'il a récupéré l'autorité du premier Adam. Et il continue toujours à le faire. Et il nous ment sur notre identité. Et quand il te ment sur notre identité, il récupère la puissance sur nous. Moi les pécheurs, moi les malheurs. Ah mon Seigneur. Et après la réunion, il est dans cette mentalité-là. Oh, Goyave de France, m'y fait pitié, mon racine. Ah, mon généalogie, où ça me sort, moi, connaître à moi. Hé hey, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Il n'y a plus ni homme ni femme. C'est le cœur de Dieu. Romains 8, 15, je termine sur ce verset. Romains 8, 15, la Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit crie en nous, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. L'esprit crie en toi, l'esprit crie en moi, à ma père. L'esprit d'adoption. Amen. Amen. En t'asseyant, regarde ton voisin, tu dis, tu as reçu l'esprit d'adoption. Mais je disais une fois à l'école biblique, vous savez, quand une famille adopte, je ne sais pas si des Français adoptent des Chinois, en Chine, on va prendre les Chinois, si en grandissant l'enfant ne se sent pas dans sa famille et veut toujours retourner en Chine, il a été adopté, mais lui il n'adopte pas sa nouvelle famille. Ça arrive parfois. Et il repart là où il était parce qu'il est tellement amer de ce qui s'est passé qu'il repart. Ça arrive malheureusement, c'est triste. L'enfant qui est adopté doit à son tour adopter les parents qui l'ont adopté. Nous avons reçu l'esprit d'adoption afin qu'à notre tour nous puissions l'adopter. Et quand vous priez, dites notre Père. C'est ça, c'est important. Et au verset 19 de Romains 8, toujours, il est écrit: aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Mais nous sommes enfants de Dieu. Et tel il est, tel aussi nous sommes. Et quand il paraîtra, vous paraîtrez aussi tel qu'il est. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Revêtez l'homme nouveau dans sa nouvelle identité. Car toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Dieu sait qui tu es. Satan sait qui tu es et il ment. Les anges savent qui tu es. La création attend que toi et moi on connaisse qui on est. Qu'est-ce que nous attendons? Pour marcher dans l'assurance de notre identité en Christ, en tant que nouvelle créature, et se l'approprier par la foi. Et manifester la gloire de Christ. Parce que Dieu nous aime. Tellement il t'aime, et tellement il m'aime, tellement il nous fait confiance. Il a tout donné pour nous. Il a donné sa vie, il a versé son sang. Et il nous donne son nom. Et Jésus a créé une nouvelle humanité. Il avait pris 9 mois pour enfanter, il a pris 3 jours. Une nouvelle créature, un nouveau corps, un homme nouveau. Les bénéfices de la résurrection.